17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, lors du procès en appel de Christophe Glaize en Algérie, le procureur a requis 10 ans de prison contre le journaliste français. Le verdict est attendu dans la soirée. Une plainte a été déposée par la Fédération internationale du journalisme et le Syndicat national des journalistes pour entrave à la liberté d'informer et crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Entretien avec l'avocate Louise El Yafi. Enfin, les droits des personnes en situation de handicap continuent d'être bafoués. C'est le constat d'Eva Victoria Fontana du collectif Handicap en cette journée internationale des personnes en situation de handicap. En Algérie, verdict attendu ce soir dans le procès en appel de Christophe Glaize, condamné en première instance à 7 ans de réclusion pour apologie du terrorisme. Le parquet de Tizi Ouzou a requis 10 ans de prison pour le journaliste français. Le procureur affirme que l'accusé n'est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique, mais pour commettre un acte hostile. Le journaliste, lui, a réclamé la clémence. Son avocat espère une issue favorable en raison d'un apaisement des relations entre la France et l'Algérie. L'ambassade américaine à Beyrouth a salué l'intégration de représentants civils du Liban et d'Israël dans les premières discussions directes entre ces deux pays. Les deux délégations ont participé aujourd'hui à une réunion du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dans le sud du Liban. Côté libanais, c'est l'ancien ambassadeur Simon Karam qui a présidé la délégation libanaise. L'Égypte dément tout accord avec Israël sur l'ouverture du poste frontière de Rafah uniquement pour sortir de Gaza. Le gouvernement égyptien affirme que si un accord est conclu pour ouvrir le passage, celui-ci se fera dans les deux sens pour entrer et sortir de la bande de Gaza, conformément au plan de Donald Trump. Israël avait d'abord annoncé que des habitants de la bande de Gaza pourraient quitter le territoire vers l'Égypte dans les prochains jour. Un accord a été trouvé entre les eurodéputés et les États européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE, une mesure qui sera effective à l'automne 2027. Enfin, Washington suspend les demandes d'immigration en provenance de 19 pays. Parmi ces pays, l'Afghanistan, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. L'accès à la bande de Gaza reste interdit pour les journalistes étrangers. Une plainte a été déposée pour entrave à la liberté d'informer et crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Le SNJ et la Fédération internationale du journalisme dénoncent le verrouillage médiatique de Gaza. Ils soulignent qu'aucun journaliste étranger n'a eu le droit de pénétrer librement dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023. Cette plainte contre X a été déposée auprès du procureur antiterroriste de Paris. Je vous propose d'écouter l'une des deux avocates qui ont rédigé la plainte, Maître Louise El Yafi.
Cette plainte, elle répond déjà à une situation quand même totalement inédite, c'est-à-dire que depuis maintenant plus de 2 ans, les journalistes étrangers ne peuvent plus entrer librement dans la bande de Gaza, et parce que cette plainte ne concerne pas que Gaza, elle concerne également la Cisjordanie. En Cisjordanie, les reporters, y compris français, sont confrontés à des menaces, à des violences, à des blocages systématiques, et on a donc une impossibilité durable d'exercer la profession, alors même que les journalistes, la profession dans son ensemble, demandent officiellement à travailler. Et la profession dans son ensemble sur les territoires palestiniens, donc les journalistes palestiniens, demandent l'accès à leurs confrères étrangers pour notamment les soutenir dans leur travail. Donc effectivement, avec le SNJ et la FIJ, on a saisi le PNAT, donc le parquet national antiterroriste, parce que plusieurs de ces actes peuvent constituer effectivement le délit d'entrave, mais également des crimes de guerre. Donc ça, ce sont les deux choses, ce sont vraiment les deux infractions qui figurent dans cette plainte, c'est-à-dire que l'entrave à la liberté d'informer, c'est un délit du code pénal, alors qui est très peu connu et très peu appliqué, et pour qu'il soit constitué, il faut deux éléments qu'on a beaucoup développés avec ma consoeur. D'abord, une action concertée, c'est-à-dire des comportements convergents ou coordonnés de plusieurs acteurs qui vont empêcher le travail d'un journaliste, mais également des actes éventuels de menaces, de violences, de dégradation, d'intimidation, qui vont à un moment créer un risque pour le journaliste s'il exerce son métier.
Et ces actes de violence, vous en faites part justement dans cette plainte.
Il faut juste, pour précision, rappeler que cette plainte, elle est déposée effectivement par la FIJ et par le SNJ. Elle est également déposée par un journaliste personne physique dont on veut absolument garder l'anonymat parce que c'est quelqu'un qui travaille encore dans la région. Donc c'est un journaliste français et qui, lui, a été victime, en tout cas nous, c'est ce qu'on argumente dans cette plainte, de potentiels crimes de guerre. Et là, je ne vous parle que de lui, mais cette plainte, elle est aussi fondée sur une douzaine de témoignages de vos confrères qui ont subi des intimidations, des détériorations, des confiscations de matériel, des interpellations arbitraires, alors même qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'en plus du blackout à Gaza, ces reporters ont toutes les plus grandes difficultés à exercer sur cet autre territoire palestinien qui est la Cisjordanie.
La plainte que vous déposez pourrait aboutir à des condamnations.
Concrètement, pourquoi est-ce que nous on dépose cette plainte? C'est pour demander l'ouverture d'une enquête. Le but n'est pas d'obtenir une réponse symbolique, mais que la justice française examine les faits, donc les entraves, les violences, les décisions administratives, et qu'elle détermine s'il y a eu effectivement des infractions pénales, et notamment ce fameux délit d'entrave, et ou éventuellement des crimes de guerre visant des journalistes français. Donc l'aboutissement de cette plainte, ce serait la reconnaissance de ces faits, l'identification des responsables, donc des responsabilités, et puis en fait sur le long terme, la protection des journalistes français dans l'exercice de leur profession.
Maître Louise El Yafi au micro de François-Xavier de Calonne. C'est ce mercredi 3 décembre, la journée internationale des personnes en situation de handicap, un événement pour rappeler l'importance de construire une société plus inclusive et améliorer l'accessibilité et l'autonomie. Mais pour le collectif Handicap, l'année qui s'achève a un goût amer, comme le souligne Eva Victoria Fontana, chargée de plaidoyer au sein de cette ONG.
Eh bien, malheureusement, les droits des personnes en situation de handicap et ceux de leurs proches continuent d'être bafoués aujourd'hui. On est à 15 ans de la ratification par la France de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Et pourtant, on assiste toujours à l'inaccessibilité de la société dans son ensemble, un accès limité aux soins, à l'emploi, à la culture, à un revenu digne. On a des ruptures de parcours pour les personnes. C'est un véritable parcours du combattant pour accéder à ses droits. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la solidarité, le principe de solidarité même, il est mis à mal dans la société, dans son ensemble. Au premier rang de tout ça, évidemment, c'est l'État qui faillit à sa mission de protéger les plus vulnérables. Et aujourd'hui, sa logique de désengagement, elle a des implications très concrètes pour la vie des gens. Les droits ne sont pas respectés. Et en plus de ça, la Convention ne va pas être mise en œuvre si l'État poursuit sa logique de désengagement.
Et vous soulignez que cette situation alarmante n'est pas propre à la France.
Non, malheureusement aussi dans l'Union européenne, c'est la même chose. En fait, on a des affichages politiques qui sont très encourageants, avec notamment la stratégie européenne pour les personnes handicapées. Mais en fait, on se rend compte que ça ne produit pas des effets concrets parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis et pas d'outils de contrôle et pas d'ambition politique importante. Le message qu'on veut porter, c'est d'investir dans cette solidarité et de ne pas oublier nos principes qui nous permettent de présenter un modèle social fort et qui protège tout le monde.
Eva Victoria Fontana du collectif Handicap, elle répondait à François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à Alexandre à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Orient.